It's Morning Edition from NPR News.
Let's see things on people how see. I'm
going to the radio.
France Inter. Le 18-20.
Et ce soir, nous allons en Tunisie, où cet été, le président Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs avec l'assentiment, avec le soulagement, on va dire, même d'une partie de la population. On a envie de comprendre un peu plus en profondeur. On se demande surtout où en est ce qu'on ne peut pas vraiment qualifier de coup d'État, ce coup de force, en tout cas, peut-être, qui interroge la Tunisie, qui interroge aussi, évidemment, ses voisins. Le bruit du monde est en Australie. Ce soir, l'Australie qui a impressionné le monde avec sa stratégie zéro Covid et qui doit bien reconnaître aujourd'hui que le variant Delta va trop vite. On reconfine et on vaccine désormais en Australie. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Logénie a trouvé un braquage hallucinant au Brésil, de l'engrais dans le thé à Ceylan et des chewing-gums mâchés à tous les vents à Londres. 18h50, le cinéma en VO comme chaque mercredi. C'est Corinne Pellissier qui est à la Mostra de Venise. Elle a de la chance. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Pour avec cette question. Et si sur l'Afghanistan, Biden avait raison? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Asni Abidi.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen qui est à Genève. Je le disais, la Tunisie, c'est l'un des soubresauts de l'actualité internationale de cet été. Le 25 juillet dernier, le président Kais Saied s'est accaparé les pleins pouvoirs pour 30 jours d'abord et puis reconduit s'inédier, dit-il. Ensuite, on viendra à l'adhésion de la population dont on parlait il y a un instant. Mais un peu plus d'un mois quand même, est-ce qu'on perçoit mieux, Asni Abidi, les intentions de Kais Saied ou pas?
Toute la difficulté réside justement dans cette incertitude. Mmh. On ne connaît pas son plan de sortie et on ne connaît pas sa fameuse feuille de route. Et d'ailleurs, quand on l'a interrogé sur sa feuille de route, il a répondu en disant « Ceux qui me demandent la feuille de route n'ont qu'à réviser leur cours de géographie ». Donc on sait que le président n'a pas pensé au coup d'après, au jour d'après. Aujourd'hui, hormis la nomination de certains de ses proches dans des postes clés, il se trouve sans chef de gouvernement et sans parlement. Et c'est ça qui inquiète, bien sûr, une partie des Tunisiens, et notamment la question judiciaire, puisque c'est lui-même aujourd'hui qui s'octroie aussi le pouvoir juridique.
Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas pensé, dites-vous? Est-ce qu'il n'a pas pensé assez loin? Ça paraît assez bizarre quand même. Est-ce qu'il réserve quelque chose de derrière sa poche? Est-ce qu'il est bonapartiste en quelque sorte? On s'empare du pouvoir pour sauver la révolution? Est-ce qu'il est autre chose? Il est quoi en fait?
Il est plusieurs choses. Mmh. C'est vrai que le président a commencé par une opération main propre qui a très bien fonctionné, qui fonctionne toujours, et ce qui explique d'ailleurs cette adhésion populaire. En revanche, je pense qu'il est dans une impasse, que le président ne savait pas que d'abord gouverner était très difficile. Il a certains éléments de langage qui sont très proches du populisme, et vous savez, quand on est au pouvoir, et utiliser un langage populiste, ça ne va pas ensemble. Le troisième élément, c'est que la Tunisie aujourd'hui ne peut plus faire ce retour en arrière, ce retour vers l'autoritarisme, un nouveau Bonaparte, même s'il est légal, ou même s'il fait appel en quelque sorte à la Constitution, puisque Kais Saied lui-même...
Il est constitutionnaliste d'ailleurs, absolument. Il sait exactement où il met les pieds là-dessus.
Professeur du droit, mais les institutionnalistes tunisiens disent que quand même son coup de force, pour ne pas dire son coup d'État, tout de même... est considéré comme une violation de la Constitution.
Alors j'allais vous demander comment on l'appelle d'ailleurs. On dit un coup d'État quand ce sont les militaires qui prennent le pouvoir. Là c'est un coup de force, c'est un président élu et en même temps qui limoge partout, vous l'avez dit, et qui prend des mesures qui sont totalement anticonstitutionnelles. Ça s'appelle comment en fait ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui?
Oui, c'est très difficile parce que vous savez, en droit il faut être précis, mais le président Kais Saied a pris vraiment un soin fou à ne pas justement brusquer son opération. D'abord il est élu, suffrage universel, il a l'adhésion de la population, il n'y a pas effusion de sang, le débat politique est toujours en cours, ce n'est pas un militaire,
il n'a pas de censure non plus d'ailleurs, pas de censure, parce qu'on entend Enerda notamment à la télévision, y compris protester évidemment contre ce qui s'est passé.
Il y a des arrestations, il faut le dire, ces arrestations obéissent plutôt à d'autres affaires, donc de corruption et des problèmes avec la justice, critique de l'institution militaire et pas du tout le débat démocratique, et c'est pourquoi il est très difficile de le qualifier comme un coup d'État.
Il y a des interdictions de voyager également quand même. Donc il y a des gens qui sont assignés à résidence en ce moment. Là aussi, on appelle ça comme ça. Ce sont des assignations à résidence réellement.
Oui, alors c'est un point d'inquiétude parce que normalement, en termes de droit, on ne peut pas arrêter quelqu'un s'il n'y a pas une procédure judiciaire qui est déjà ouverte. C'est-à-dire l'interdiction de sortir de territoire, c'est une mesure complémentaire. Dans le cas tunisien, certains députés, certains hommes d'affaires ont été arrêtés sans justement l'ouverture d'une procédure judiciaire. Ce qui inquiète une partie d'ailleurs des magistrats tunisiens.
Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, Hassni Abidi, c'est que c'était déjà un ovni quand il est arrivé. Au fond, on ne s'attendait pas à ce que ce monsieur gagne la présidence. Il est arrivé comme une espèce d'homme un peu providentiel quand même, d'homme main propre, effectivement, comme vous le disiez, dans une Tunisie terriblement corrompue ces 10 dernières années. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une nostalgie d'un homme providentiel dans ce pays ? Est-ce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la population, pour l'instant, adhère et ne dit rien ?
Oh, il y a la nostalgie d'un homme, probablement un homme charismatique. Les Tunisiens sont habitués à des hommes importants qui ont marqué leur histoire. Le président Bourguiba et même le président
Ben Ali, au fond.
Absolument, le président Bajir Raed Sebsi. Et probablement, c'est-à-dire l'absence d'un homme providentiel, un homme qui peut faire régner un petit peu l'ordre, parce qu'il faut dire que la Tunisie, depuis la Révolution, elle est gangrénée par la corruption, par une faillite, par une fuite en avant de sa classe politique, y compris les islamistes. Et c'est pourquoi l'arrivée de ce président, je me souviens, sa campagne électorale, il l'a faite à bord de sa 305 Peugeot. Il n'avait pas de porte-parole, il n'avait pas d'agence de relations publiques, il n'avait pas d'argent pour mobiliser sa campagne électorale. Il l'a fait d'ailleurs, elle l'a faite sur lui et son épouse, qui est aussi magistrate, sur Facebook. Et aujourd'hui, Facebook, c'est son premier soutien.
Je le disais tout à l'heure, la population, pour l'instant, ne fait rien. Il y a même eu un certain nombre de gens, y compris, on a lu des tribunes qui sont venues jusqu'à nous, de gens qui parlaient de soulagement, au fond. Et c'est ça aussi, peut-être, le paradoxe tunisien aujourd'hui. On est soulagé que quelqu'un ait pris le pouvoir par la force et évincé les islamistes d'Ennahda et remis les compteurs à zéro, quasiment.
Oui, c'est vrai que c'est tout le paradoxe de la séquence tunisienne, c'est que d'abord il y a une déception de voir un peu le seul État rescapé du printemps arabe qui a réussi à faire une transition dans l'ordre, une assemblée constituante et une constitution la plus libérale du monde arabe, revenir à une situation d'incertitude, pour ne pas dire probablement de tentation d'autoritarisme incarné par Kais Saied, et en même temps de voir une population tunisienne fatiguée, très fatiguée, lassée par l'incurie de cette élite politique et économique, et soulagée, comme vous le dites, dans l'arrivée de Kais Saied et finalement de ce nettoyage opéré par ce président. C'est tout le paradoxe. Mais vous savez, dans une transition démocratique, c'est courant cette situation-là où la transition marque parfois le pas pour probablement se renouveler.
Est-ce que ça remet effectivement en cause cette image de la fierté des Tunisiens, d'être le seul pays effectivement à avoir gagné une révolution démocratique, à avoir instauré une démocratie parlementaire après la révolution, etc. On a l'impression, est-ce qu'on est en train de passer c'est au fond vers une espèce de régime présidentiel? Est-ce que c'est aussi ça que ça veut dire? Après tout, nous, on est bien placés pour savoir qu'il en faut plusieurs, des révolutions pour en faire une. Est-ce qu'on est en train d'imaginer une sorte de troisième république tunisienne? Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui se passera derrière?
Alors, il y a plusieurs réponses. C'est vrai que cette question de fierté pour les Tunisiens d'être un pays qui a réussi sa transition démocratique, elle est désormais une pression qui pèse sur les Tunisiens, parce qu'ils se disent oui, on a réussi cette transition, on a réussi la démocratie, mais on souffre. Nous sommes dans une situation économique très difficile. Vous savez, les derniers rapports des institutions internationales parlent de réserves de devises de la Tunisie de 7,4 milliards, c'est-à-dire 7,4 milliards. C'est l'équivalent de l'importation pour 220 jours. C'est très peu. Il y a une crise économique sociale. L'inflation a atteint des niveaux records. Et le deuxième élément, c'est vrai que le président Kais Saied, finalement, ne se reconnaît pas dans l'offre politique existante. Il critique, il passe son temps à critiquer les partis politiques et toutes les structures intermédiaires. Et on le sait, ces structures sont importantes, sont les pivots de la classe moyenne, de la démocratie et de la transition démocratique. Il ne se reconnaît pas dans ce système parlementaire, il l'a critiqué, même s'il est hybride, et je pense que son plan, c'est plutôt travailler pour un nouveau système politique, basé plutôt sur des larges pouvoirs au président de la République. Le point d'inquiétude, c'est qu'il a fait aujourd'hui des discours, des monodiscours, des monologues dans les casernes. Et Kais Saied, il a réussi un exploit, c'est qu'il a réussi quand même à draguer l'institution militaire et sécuritaire. Les deux soutiens aujourd'hui pour Kais Saied, ce sont l'armée et la police. Alors que l'armée a toujours été marginalisée par tous les présidents tunisiens, par peur justement d'un putsch militaire.
D'un point de vue de pure constitution, si demain il se présente devant les Tunisiens en disant voilà, on va changer effectivement le régime tel qu'il est, comment ça marche? Est-ce que ça marche par voie référendaire? Est-ce que c'est impossible dans la situation où il est là, puisqu'il est illégal en quelque sorte. Enfin, en tout cas, qu'il se les rend, il est toujours élu, mais il s'est rendu illégal par certaines de ses positions. Donc, comment ça marche en fait? Comment ça marcherait? Est-ce qu'on le sait au moins?
Écoutez, alors déjà l'usage de l'article 80 qui a parlant de ce qu'on appelle un danger imminent, dénote d'une lecture très flexible de président Kais Saied. Comme il est de professeur de droit, donc il peut lire les articles comme ça l'arrange finalement. Le retour à la situation de avant le 24 juillet est très difficile pour le président. Et c'est pourquoi je pense que le Parlement il n'a pas beaucoup de chances de revenir. Ou s'il revient, c'est probablement pour faire des amendements ou pour changer justement la constitution et échanger même la nature du système politique, ce qui va vraiment brusquer une partie de la classe politique. Kais Saied a de la chance parce que tous ses rivaux sont dans une situation très difficile, critique, y compris le premier parti, le parti d'Annarda, qui aujourd'hui vit une crise en profondeur. Il y a une déconnexion entre le bureau exécutif, le président même, Rachid Ghannouchi, président du Parlement, et sa base.
Avec qui il parle, le président? A-t-il un bras droit? Est-ce qu'il y a une espèce de, j'en sais rien moi, un triumvirat ou quelque chose de ce genre-là qui est en train de gouverner aujourd'hui? Est-ce qu'on sait qui est autour de lui? Alors, et qu'il conseille aussi, d'ailleurs.
En Tunisie, on dit que le président parle à lui-même.
D'accord.
Et c'est vrai qu'on a assisté à quand même à une démission en cascade de ses proches conseillers. Et d'ailleurs, plusieurs chefs de gouvernement, ou en tout cas le dernier, c'est le président de la Banque centrale en Tunisie, qui est un homme respectable, a décliné l'offre parce qu'il sait qu'il est très difficile de travailler avec Kais Saied. Est-ce qu'il a une agence de communication? Non. Il a des conseillers, il a des hommes proches. La personne la plus proche, c'est bien sûr, son épouse, et évidemment, et toute la difficulté même de certains États démocratiques, comme la France, ou même les États voisins, qui s'inquiètent justement en disant que le président Kais Saied est un homme seul.
Alors, en parlant de voisins, justement, je voudrais que vous nous expliquiez en quoi la carte régionale peut être rebattue. Il y a beaucoup de gens qui soulignent, par exemple, que le tournant s'est peut-être fait, vous allez nous dire si c'est vrai, lorsqu'il y a eu un voyage en Égypte, qu'il a rencontré Al-Sissi. On sait bien dans quelles conditions Al-Sissi est arrivé au pouvoir. Alors, comparaison n'est pas raison, il y a eu du sang en Égypte, il n'y en a pas eu en Tunisie, tout ça est très différent. Mais néanmoins, on dit que l'un des tournants, ça a été à ce moment-là. Est-ce qu'on le croit, ça? Est-ce qu'on se dit qu'une autre alliance est en train de se former, notamment avec l'Égypte? Et est-ce qu'il a pu être influencé par ce que lui a dit Al-Sissi?
Alors, les journalistes très proches de président Sissi, président égyptien, disent que les services de renseignement égyptiens avaient bien étudié le parcours de Kais Saied, de sa scolarité jusqu'à son investiture, et ils lui ont préparé un programme qui répond exactement à, bien sûr, à ses attentes. Mm-hmm. Donc, on sait, l'Égypte était très intéressée par la Tunisie. Plusieurs États, l'Égypte, les pays du Golfe, sont concernés. Et aucun de ces États, c'est-à-dire ce qu'on appelle les États du Golfe et ceux qui n'étaient pas tout à fait à l'aise avec l'arrivée de l'islam politique au pouvoir.
Ou qui l'ont chassé, comme en Égypte.
Absolument. Leur objectif, c'est comment rendre difficile, justement, la vie au parti d'Annarda et soutenir Kais Saied. En même temps, la Tunisie n'a pas la même armée qu'en Égypte. C'est-à-dire que ce n'est pas une armée qui peut vraiment prendre le relais. Ce n'est pas une armée politique. Et ce n'est pas une armée qui va pouvoir se justifier aux yeux de la population, puisque les Tunisiens ont une classe moyenne, une société civile très active, ont aussi un syndicat qui est très important, c'est un pivot de la vie politique et syndicale, même si évidemment il y a cette tentation de voir un peu ce qui se passe en Égypte, parce que le scénario, il y a des similitudes dans les deux scénarios, mais il est improbable que la Tunisie bascule dans le même scénario que le scénario égyptien. En revanche, vous avez raison de souligner un petit peu cette guerre de compétition, cette guerre d'influence que se livrent plusieurs États sur la Tunisie, c'est-à-dire des États qui veulent le retour, entre guillemets, de la légalité constitutionnelle, à savoir le Qatar, à savoir la Turquie aussi. Mais l'Algérie joue un petit peu la médiation. En une semaine, le ministre des Affaires étrangères algérien a rendu, a visité Tunis. Donc deux visites par une semaine, ce qui montre l'inquiétude des pays voisins. Et vous avez aussi l'adjoint de conseiller à la sécurité américaine qui fait le déplacement Washington-Tunis pour justement demander au président Kais Saied de revenir à une situation normale, la normalité, c'est-à-dire le retour du Parlement, pour vous dire l'importance de la scène tunisienne.
Qu'est-ce qui se passerait si demain les alliances basculaient, en fait ? C'est-à-dire si effectivement la Tunisie regardait plus vers un certain nombre de pays du Golfe et vers l'Égypte que vers la Turquie et vers le Qatar, comme était l'inclinaison d'Ennahda. Qu'est-ce qui se passe si cette géopolitique-là se retourne ?
D'abord, ça va être un grand échec pour l'expérience de la démocratisation et l'arrivée de la mouvance islamiste au pouvoir. C'est-à-dire, on va montrer que finalement, l'islamisme politique au pouvoir, c'est un échec total. Le premier, c'était en Égypte, le deuxième était en Tunisie, même si le rôle de ces États-là, c'est un rôle négatif. Le deuxième élément est un élément économique et social. En Tunisie, vous avez une population qui est derrière Kais Saied, et les sondages le montrent. Pour eux, ce n'est pas question de la transition démocratique, mais la question de la restauration de l'ordre, la restauration d'une vie économique et sociale normale. En revanche, le président Kais Saied n'a pas les moyens, il a les caisses vides pour justement répondre positivement à cette population. Donc je pense que la situation interne va primer sur cette guerre d'influence que se livrent les pays voisins.
On dit que s'il a fermé la frontière avec la Libye, notamment, c'est pas seulement pour des histoires de Covid, parce qu'effectivement la Tunisie par ailleurs est littéralement mangée par le Covid. On dit que s'il a fermé cette frontière, c'est aussi pour éviter l'influence turque qui viendrait de Libye et pour se sauver la peau aussi, parce qu'on dit, mais vous allez nous dire si c'est vrai ou pas, on dit qu'il y a eu un certain nombre de tentatives d'assassinats, etc. Est-ce que c'est lui qui met ça en scène pour bien montrer où il est et ce qu'il risque, ou est-ce qu'il y a une réalité là derrière ?
Alors c'est clair que lui ou son entourage sont derrière une campagne où on a de la peine un petit peu à la vérifier. La première, c'est qu'on a des opérations d'empoisonner le président Kais Saied. La deuxième, c'est la tentative de coup d'État fomentée par des islamistes. Et le président de Ghannouchi lui-même a demandé une enquête. Jusqu'à maintenant, aucune enquête n'a été débutée ou ordonnée par le parquet. Et le troisième point, c'est la question de Libye. C'est-à-dire qu'un groupe de djihadistes en provenance de la Libye pour commettre un attentat meurtrier, mais on n'a pas de preuves, mais on sait que ces exemples-là plutôt plaident en faveur de la thèse de Kais Saied, et c'est un élément de populisme par excellence.
Une toute dernière chose, donc la dernière étape, c'est quand il dit finalement ça ne durera pas un mois, ce sera Sinédié. Est-ce qu'on sait s'il y a une étape suivante ou on n'en a aucune idée pour l'instant ?
Mais je pense que le président lui-même ne sait pas s'il a une prochaine étape ou non, dans la mesure où personne ne connaît vraiment sa feuille de route.
Ce sera l'occasion pour vous de revenir nous en parler. Merci beaucoup, Hassani Abidi. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saintès, sur France Inter.
Suite, ce soir, ça se passe en Australie, où on reconfine sévèrement, où la stratégie zéro Covid est dépassée par le variant Delta. Résultat, ruée sur la vaccination. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Legeny.
Avec un nouveau fait divers terrifiant au Brésil, où les braqueurs ne reculent devant rien, vous l'entendrez.
Comme chaque mercredi, le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier qui est à la Mostra de Venise ce soir. Et puis le monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à tous. Les critiques pleuvent sur Biden depuis le retrait américain d'Afghanistan. Et si le président américain avait raison.
A tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète continue dans un tout petit instant. En attendant, voici les visions de José González dans la playlist de France Inter.
Visions, trying to make sense of a now, trying to make sense of a past, to show us how. Imagining the worlds that could be, shaping a mosaic of fate for all sentient beings. Visions, cycles of growth and decay, cascading chains of events. With no one to praise or blame. Ooh. Ooh. Visions, avoidable suffering and pain. We are patiently itching away toward unreachable utopias. Visions,
forces of nature, elevated by mindless replicators, challenged to steer our collective destiny. Visions, look at the magic of reality, while accepting with honesty that we can't know for sure what's next. No, we can't know for sure what's next, but that we're in.
Le bruit du monde ce soir est en Australie. Nous sommes dans un centre de vaccination. Vous allez comprendre pourquoi. L'Australie, qui comme son voisin Nouvelle-Zélande d'ailleurs, a toujours misé sur la stratégie zéro Covid. Jusque-là, ça a marché. Autour de 1000 morts pour 25 millions d'habitants, c'était plutôt un bon bilan jusqu'à l'an dernier. Sauf que le variant Delta est plus fort que la stratégie. L'Australie est repassée, est dépassée par les cas de contamination. Elle referme hermétiquement. Plus de la moitié de la population est reconfinée. Vous allez l'entendre dans le reportage. À nouveau, on se parle à distance. Seule solution donc désormais, la vaccination boudée jusque-là, puisque les cas étaient rares. Le reste, c'est Grégory Pless qui raconte.
C'est ici la queue pour les vaccins ?
Vous devez d'abord passer par le parking, vous prenez à gauche, puis à droite.
Après un démarrage poussif, la vaccination contre le coronavirus avance désormais à grands pas en Australie, comme par exemple dans cet hôpital de Sydney où des centaines de personnes font la queue. Philippa, elle, sort tout juste de l'hôpital.
C'est une organisation vraiment très impressionnante, c'est réglé comme du papier à musique, ça a pris un peu de temps mais ça valait le coup.
Quelques minutes plus tard, c'est Adriane et sa copine qui sortent du bâtiment. Âgés d'une vingtaine d'années, ils ne sont devenus éligibles à la vaccination que tout récemment.
C'est fantastique, je suis vraiment impatient que certaines restrictions soient levées et qu'on puisse reprendre une vie normale maintenant qu'on est vacciné.
Car la réalité, en attendant, est un peu morose. Canberra et Melbourne sont confinés depuis un mois et Sydney depuis maintenant plus de 10 semaines. Mais Courtney, la compagne d'Adriane, ne perd pas de vue le but de ces mesures.
Évidemment, c'est pénible d'être enfermé en permanence, mais l'important, c'est de ne pas se mettre en danger.
Car le danger, effectivement, est bien réel. C'est ce que confirme John Townsend. Il est infirmier aux urgences d'un hôpital du sud-ouest de Sydney, un secteur très touché par l'épidémie actuelle.
On a un flux constant de patients positifs qui arrivent en ce moment, surtout depuis une semaine. Et on a dû transformer certains de nos blocs opératoires en salles Covid.
Pour l'instant, les hôpitaux ne sont pas dépassés. Le travail y est malgré tout intense, car sur place, tout est fait pour éliminer les risques de contamination.
Quand une ambulance arrive avec un cas positif, on prend des mesures supplémentaires pour s'assurer que la contamination n'atteigne pas d'autres parties de l'hôpital. Du coup, on a un médecin qui fait un premier diagnostic du patient dans l'ambulance et qui décide s'il peut aller aux urgences générales ou directement au département Covid.
La situation est donc tendue, mais toujours sous contrôle à Sydney. En revanche, plus inquiétant pour les autorités, le virus circule désormais en zone rurale. C'est notamment le cas à Debo, un important centre régional pour les communautés aborigènes. Considéré à risque car souffrant davantage de maladies chroniques comme le diabète, la communauté aborigène est pourtant moins vaccinée que le reste de la population. Le résultat, entre autres, d'une certaine défiance des aborigènes à l'égard du gouvernement, qui par le passé faisait assez peu de cas de leur bien-être. Mais cette méfiance est en train de se dissiper, d'après Phil Naden. Il préside le service médical aborigène de Debo.
L'épidémie en cours a changé les mentalités. Moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'époque où on nous infligeait certaines choses est révolue. Et qu'en revanche, ce virus peut tuer. Ça, les gens l'ont bien compris.
Le message semble être passé aussi dans l'ensemble du pays, où en ce moment, on administre jusqu'à 300 000 doses de vaccins par jour. Le démarrage en février dernier avait pourtant été très lent, tout simplement parce qu'à ce moment-là, la menace du virus semblait avoir disparu. C'est ce qu'explique le docteur Linda Calabresi, Elle travaille dans un cabinet médical au nord de Sydney.
La réalité, c'est que quand les vaccins sont devenus disponibles, les gens ne voyaient pas l'intérêt de se faire vacciner, car il n'y avait aucun cas de Covid. C'est seulement depuis l'apparition de ce dernier foyer épidémique et la mise en place du confinement que la demande a explosé.
Le confinement à Sydney fonctionne aujourd'hui comme un pass sanitaire inversé, les autorités promettant à ceux qui sont vaccinés qu'on leur rendra certaines libertés d'ici quelques semaines. C'est la raison pour laquelle le docteur Calabresi pense que le rythme actuel des vaccinations se maintiendra, du moins jusqu'à ce que le seuil de 80% de la population vaccinée soit atteint, c'est-à-dire l'objectif fixé par le gouvernement pour un retour à la normale.
La réouverture du pays et la levée des restrictions est liée à la vaccination. C'est donc un fort motivateur. Et puis, elle est devenue obligatoire pour de nombreuses professions. Il y aura bien sûr quelques personnes qui feront de la résistance, quoi qu'on leur dise, mais je ne pense pas que le rythme en ralentira avant qu'on passe le cap des 80% de vaccinés.
Malgré quelques manifestations anti-confinement et anti-vaccins, la tendance anti-vax semble moins répandue en Australie qu'en France. D'après un sondage récent, seulement 11% de la population refuse de se faire vacciner.
Grégory Pless pour le reportage. Merci beaucoup Grégory. Le bruit du monde, comme chaque soir, passe aussi sous les radars. Et c'est Sébastien Logénie qui est là. Et Sébastien, on commence donc dans les rues brésiliennes de l'état de Sao Paulo, théâtre hier d'un braquage hallucinant qui ébranle tout le pays par sa violence.
Oui, ça s'est passé très tôt lundi matin dans la ville d'Araçatuba, 200 000 habitants, une ville moyenne en plein cœur du pays qui s'est donc réveillée il y a deux jours au son des armes automatiques. Voilà, ce que l'on entend là, c'est l'une des nombreuses vidéos tournées par des habitants terrifiés, comme cette jeune femme que l'on entend derrière nous. Ce qu'elle voit est digne d'un film noir. Un groupe d'une cinquantaine de criminels répartis dans une dizaine de grosses voitures et qui attaquent trois banques alors que le soleil n'est pas encore levé. Ils tirent en l'air et surtout ils prennent en otage plusieurs passants avant de les utiliser comme boucliers humains attachés sur le toit des voitures des braqueurs pour éviter que la police ne leur tire dessus. Bilan, au moins trois morts, parmi eux un jeune professeur qui va finir par tomber de l'une des voitures et mourir dans un échange de feu, de coups de feu. Les gangsters avaient bien sûr préparé leur attaque, ils avaient installé des explosifs à différentes entrées de la ville, coupé le courant dans certaines rues et circulaient dans des véhicules au vitres anti-mitrailleuses. Bref, la police d'une petite ville comme Araçatuba ne pouvait pas faire grand-chose. C'est d'ailleurs la stratégie de ces gangs, hein, surarmés depuis quelques mois, s'en prendre à de petites villes où les forces de l'ordre sont rapidement submergées. Un nouvel épisode sanglant donc de cette hyperviolence au Brésil. 10e pays le plus violent au monde, Fabienne, 60 000 homicides par an, 7 meurtres toutes les heures.
Direction les plantations de thé, ça n'a rien à voir sur l'île de Ceylan.
Ceylan, autrement dit le Sri Lanka, célèbre pour son thé, Fabienne, l'un des meilleurs au monde, de magnifiques feuilles vertes encore cueillies à la main, qui rapportent au pays plus de 1 milliard de dollars par an. Cette industrie historique et précieuse se dit aujourd'hui menacée par les projets du gouvernement sri-lankais. Les autorités politiques veulent là-bas faire du pays le premier producteur mondial d'aliments 100% biologiques, avec à la clé l'interdiction cette année de tous les engrais chimiques, sauf que les gros bonnets du secteur s'inquiètent. Ils craignent que leur récolte de thé, qui vaut de l'or, ne soit divisé par deux. Celui que l'on entend ici, c'est l'un des plus gros industriels du thé de Ceylan. Sa production vaut jusqu'à 2000 dollars le kilo. Or, dit-il, cette interdiction des engrais imprévus a plongé l'industrie du thé dans un désarroi total, car elle dépend de l'azote, des phosphates, de la potasse, et sans cela, ça coûte 10 fois plus cher à fabriquer. On peut donc s'attendre à une baisse de production jusqu'à moins 50%. Ça veut dire un gros trou dans les caisses du pays, une grande partie de la population au chômage. 3 millions de Sri Lankais, 15% de la population dépend de ce secteur. Le Sri Lanka qui, par ailleurs, traverse une crise économique sans précédent avec le Covid, au point d'avoir déclaré hier l'état d'urgence alimentaire. Dans ces conditions, le 100% bio origine Ceylan, ce n'est pas pour tout de suite.
Allez, on finit sur les trottoirs de Londres.
Ouais, des trottoirs envahis, Fabienne, non pas par des crottes de chiens ou des mégots de cigarettes, non, ça c'est à Paris, mais par des chewing-gums, et ça, eh bien, Bojo ne le supporte pas. Voilà, Boris Johnson qui a décidé de livrer une vraie guerre au masticage de rue, on l'entend là fulminer contre les chewing-gums restés collés au trottoir, cette acné monstrueuse, lance-t-il. Il faut pour lui absolument trouver une solution. Soit vous l'avalez, dit-il, propose le Premier ministre britannique, soit vous vous le coller derrière l'oreille, soit direction la poubelle, mais pas question en tout cas de le jeter par terre, sinon ce sera 150 livres sterling, 175 euros d'amende, et les citoyens ne seront pas les seuls à payer. Bojo a aussi demandé aux fabricants de mettre la main à la poche. Airways, Fridan, Mentos vont donner 10 millions de livres pour le nettoyage des rues. Des brigades d'une ONG anti-déchets devraient bientôt se mettre au travail. Au total, 86 000 mètres carrés de chewing-gum à enlever. 17 terrains de football, voilà. J'ai fait le calcul, ça fait quand même quelques bulles.
Voilà. Comme vous dites. Mais moi, j'étais très bonne en bulle quand j'étais petite.
Mais
depuis les masques, beaucoup moins. Merci beaucoup, Sébastien. À demain. Faisons plutôt comme Mango Jerry. Prenons des vacances. In the summertime. Jerry, in the summertime. Excellent pour un 1er septembre. Les moteurs, nous allons à Venise, c'est le cinéma en VO.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et le cinéma en VO, c'est d'abord cet extrait du film Dune, et c'est peu dire que les fans l'attendent, ce film et bien d'autres aussi. On en profite en ce début d'année pour faire un point sur les sorties événements à venir. Et bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour Fabienne.
Corinne, vous avez de la chance, vous êtes à la Mostra de Venise, l'endroit où paraît-il il faut être vu lorsqu'on veut briller aux Oscars, puisque tous les gagnants, ou presque, des dernières éditions étaient d'abord ici avant de remporter la statuette suprême. C'était Chloé Zhao d'ailleurs pour Nomadland par exemple. Alors qui sera le prochain ?
Alors on a vu ses cheveux dépasser tout à l'heure derrière le grand mur qui sépare désormais le public du photocall. C'est l'un des favoris de cette édition, Pedro Almodovar. Pour le voir de près, ce sera en photo sur Instagram, beaucoup moins folklorique évidemment par temps de Covid. Depuis 2 ans, il a fallu réaménager tout l'espace autour du palais des festivals qui abrite la compétition. Les curieux ne font plus comme avant à la queue pendant des heures sous un soleil de plomb pour espérer croiser des stars ou décrocher un autographe. Désormais, ils ont vu sur un mur. Tout se passe aujourd'hui dans les salles de projection. Le coup d'envoi sera donné d'ailleurs d'ici quelques minutes avec justement le nouveau film de Pedro Almodovar, Madres Paralelas. On découvre ensemble un extrait.
A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ya está aquí.
Si vuelve aquí no hará sino remover las cosas.
Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más. Pues vete de gira.
Va a ser muy morena como tú.
Ah, c'est un des grands films attendus cette année sur le Lido, où Pedro Almodovar a déjà reçu un Lion d'Or il y a 2 ans pour l'ensemble de sa carrière. Il revient aujourd'hui avec plusieurs de ses comédiennes fétiches, Rosie de Palma, Julieta Serrano et Penélope Cruz, la muse. C'est leur 7e film ensemble depuis Tout sur ma mère en 99. Une sorte de retour aux sources avec un film très féminin, centré sur la question de la famille, de la maternité. Qu'est-ce qui fait de vous l'enfant de votre mère? On n'en dira pas plus. Prévoyez juste Fabienne de piquer dans le film à Penélope Cruz la meilleure recette de tortilla de tous les temps. Madres Paralelas sur les écrans le 1er décembre.
Madres Paralelas, très bel accent. Alors très attendu aujourd'hui, le nouveau film de Jane Campion, The Power of the Dog, réalisatrice qui était d'ailleurs jusqu'à cette année la seule femme à avoir remporté une Palme d'Or à Cannes. C'était en 93 avec La Leçon de Piano.
Oui, d'autant plus attendu, Jane Campion, qu'elle avait un peu disparu des radars. Son dernier film remonte à 2019, Bright Star. Entre temps, il y a eu la série Top of the Lake. Mais l'excitation évidemment est grande à l'idée de découvrir demain soir son premier film depuis 12 ans avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst. Le film sortira sur Netflix le 1er décembre.
Et donc il a le droit de concourir, Corinne, parce qu'au Festival de Cannes, justement, c'est l'inverse.
Exactement, pour une question essentiellement de chronologie des médias. Et non seulement ici, Netflix a le droit de concourir, mais a même remporté un Lion d'Or en 2018 avec le magnifique Roma d'Alfonso Cuarón. Cette année, la plateforme arrive avec 2 prétendants au titre, Jane Campion, on vient d'en parler, et l'enfant du pays, Paolo Sorrentino, avec sans doute le film le plus personnel de sa carrière, La Main de Dieu, dispo sur la plateforme le 15 décembre. Un récit d'apprentissage qui parle de cinéma, de football, dans le Naples des années 80. Si vous aimez Maradona, ça va vous faire un point commun avec le réalisateur.
Et le président du jury, Corinne, cette année, c'est Bong Joon-ho, donc le réalisateur, entre autres, de Parasite. Et heureusement qu'il n'est pas venu tout seul, parce que la sélection, j'ai l'impression, s'annonce extrêmement serrée.
Beaucoup de stars et beaucoup d'Américains attendus cette année, signe sans doute d'une reprise après le choc de l'épidémie de Covid. Ridley Scott avec son nouveau film, Dernier Duel, qui met en scène Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver. Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac dans le remake de Dune de Denis Villeneuve, présenté hors compétition mais particulièrement attendu en avant-première mondiale vendredi. Il sort au cinéma le 15 septembre. Et puis la reine du bal, Kristen Stewart, à l'affiche du biopic événement autour de la princesse Diana. Le film est signé Pablo Larraín, c'est lui qui avait réalisé en 2016 le portrait de Jackie Kennedy. Les fans de la série The Crown ne pourront sans doute pas s'empêcher de comparer les deux Diana, Emma Corrin d'un côté, Kristen Stewart de l'autre. La ressemblance ici est assez impressionnante, jusque dans la diction. Dans les premières images qu'on a pu voir, c'est une Diana acculée, prisonnière d'une vie qui ne lui convient pas. Le public français, hélas, ne verra pas le film au cinéma. Le Spencer de Pablo Larraín est prévu pour sortir chez nous directement sur Amazon.
Aïe, 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 merci beaucoup. Corinne, merci vraiment. Profitez bien de Venise. La semaine prochaine, on se retrouve évidemment ici en studio pour l'actualité des sorties en VO. À mercredi.
Fabienne Saint-Ès, le 18-20.
Le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Jean-Marc, la nuit dernière, Joe Biden a essayé de justifier le retrait d'Afghanistan. Le président américain est très critiqué après ce qui est apparu comme une débâcle et un départ chaotique des États-Unis. Mais pour vous, Biden a fait le bon choix et c'est votre monde d'après.
I believe this is the right decision, a wise decision, the best decision for America. Voilà la formule utilisée hier soir par Joe Biden sur un ton très solennel. Je crois que c'est la bonne décision, une décision sage et la meilleure décision pour l'Amérique. Alors bien sûr, Biden fait de la politique, hein. Il cherche à faire passer la pilule de cette évacuation précipitée, ensanglantée par un attentat du groupe État islamique qui a fait des dizaines de morts aux civils afghans et soldats américains, et une évacuation perçue par le monde entier comme l'épilogue d'un échec militaire patent pour les États-Unis, un de plus après le Vietnam ou l'Irak. Tout ça, c'est vrai. Mais Biden n'a pas tort pour autant. Revenons d'abord quand même sur cette opération d'évacuation en elle-même. Il la qualifie d'extraordinaire succès. Ça paraît paradoxal, mais c'est pas faux. Un pont aérien de 15 jours qui a permis d'évacuer 123 000 personnes, c'est quand même énorme. Même si ça laisse sur le carreau, on le sait, des milliers d'Afghans désireux de fuir. Cette opération militaire a été en soi plutôt réussi, et elle a d'ailleurs été saluée aux États-Unis par certains vétérans de l'Afghanistan. Quant au chaos final, lui, il était probablement de toute façon inévitable.
Alors tout ça n'en fait pas pour autant, Jean-Marc, la meilleure décision pour l'Amérique.
Non, mais il y a davantage sur le plan de la politique intérieure. Déjà, Biden a sans doute fait le bon calcul. Sa gestion des derniers jours de la chute de Kaboul est évidemment critiquée, autant par les ténors de l'opposition, le Parti républicain, que par les médias plus proches des démocrates, le Washington Post, MSNBC. Mais c'est conjoncturel, parce que sur le fond, les Américains donnent raison à Biden sur le retrait d'Afghanistan. 54% contre 42, selon une enquête du sérieux Pew Research. Une large majorité de la population souhaitait le retour des boys à la maison. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est Trump qui avait initié ce désengagement en passant un accord avec les talibans l'an dernier. Le Parti républicain se trouve donc dans une position inconfortable pour aller trop loin dans la critique. Et puis, ce retrait incarne aussi la volonté affichée par Biden du America First. C'est la priorité aux affaires intérieures, la mobilisation contre la pandémie, la relance économique, la résorption des fractures politiques, sociales qui divisent le pays. Et sur ce plan, l'argument budgétaire pèse de tout son poids. La guerre en Afghanistan a coûté 2000 milliards de dollars aux États-Unis, un puissant fonds. 300 millions par jour. Oui, par jour. C'est ce qu'a martelé Biden hier soir. 300 millions par jour. Vous vous rendez compte? Est-ce que ça en vaut la peine? Autrement dit, cet argent serait mieux utilisé, par exemple, pour créer des emplois. Et ça, c'est un argument qui porte aux États-Unis.
Alors reste quand même la politique extérieure, cette fois. Et là, quand même, l'image des États-Unis en a pris un sacré coup.
C'est indiscutable, mais c'est quand même un choix défendable aussi sur le plan diplomatique. D'une part, ce retrait traduit de la lucidité sur l'impasse de ces guerres sans fin. Nous sommes une nation depuis trop longtemps en guerre, dit Biden. Il a raison. L'interventionnisme militaire américain, pour pas dire l'aventurisme, ont fait suffisamment de dégâts depuis un demi-siècle au Vietnam, en Irak ou ailleurs. Et l'illusion du regime change ou du state building, on va changer les systèmes politiques, on va bâtir des États. Cette illusion est enfin envoyée aux oubliettes. C'est un aveu d'échec. Oui, mais c'est lucide, c'est sage. D'autre part, ce retrait incarne un choix rationnel, la décision des États-Unis de se recentrer sur une ou deux priorités de politique étrangère. La menace russe, en particulier sa dimension cyber, qu'il faut contrer, et surtout la menace chinoise, on le sait, commerciale, technologique, voire militaire dans la zone Indo-Pacifique. C'est pas un hasard si la vice-présidente Kamala Harris était en tournée en Asie pendant que Kaboul tombait. Se désengager des autres terrains, en particulier du Proche et du Moyen-Orient, est donc logique. C'est un arbitrage assumé, initié en fait dès Barack Obama. Soit dit en passant, cette priorité donnée à l'enjeu chinois signifie aussi que l'Europe est devenue secondaire dans le logiciel des États-Unis. Il est temps que les Européens s'en aperçoivent. Un peu de lucidité chez nous aussi ne ferait pas de mal.
Le monde d'après, signé Jean-Marc Four, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.